dɔgɔkunkan kɛmɛ jɔjan fɛ kɛnyɛrɛ arajo so fɔlɔ min sigira an fɛ yan mali la bamakan ale de bɛ se ka konincinin kɛ koba ye n'a y'a daɲuman don a la ka mankutun bamakan ale de bɛ se ka koba bolodalen kɛ kolankolon ye n'a m'a daɲuman don a la ka sankɔrɔta bamakan siniɲɛsigi arajo kafo kunkan
Chers auditeurs de Radio Bamakan, bonjour et bienvenue à notre émission Mon Combat. La mine d'or de Yatila, dont les recherches sont entamées depuis entre 1996 et 1997, s'est ouverte en 2000 avec un capital de 75 millions de dollars US. Un an plus tard, les premiers lingots d'or ont coulé avec une capacité de 500 tonnes à l'hectare, soit 85% du taux de récupération. La fin de l'exploitation de la mine fixée en 2013 s'est poursuivie jusqu'en 2014 avec une réduction des activités extractives. La mine connaîtra un regain d'intérêt avec la cession de l'ensemble des actions de Sadiola Exploration Limited SADEX, soit 80% à l'État malien qui ne détient que 20%. Un contrat de cession y a même été signé par la partie malienne, c'était en conseil de ministre en février 2019. La société d'exploitation des mines de Yatila SA est la nouvelle entité qui s'occupera désormais des destinées de la mine d'or. Et face à la situation, la société civile, à travers la coalition publiée « Ce que vous payez », s'interroge à travers une série de questionnements et sur laquelle nous allons tout à l'heure échanger dans cette émission sur Radio Bamakan qui s'intitule tout simplement « La reprise de la société d'exploitation des mines d'or de Yatila ». Abdul Wahab Diakité, président de la coalition publiée « Ce qui vous paye », Tchemoko Suleiman Sangaré, secrétaire général de la même organisation, sont nos deux invités. Bonjour Abdul Wahab.
Bonjour Monsieur Diarra.
Suleiman, bonjour. Helaj, j'allais dire comme
bonjour,
ça. Et d'ores et déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, Et pourriez-vous nous parler un peu de l'état, faire un état de lieu de l'exploitation de l'or au Mali? Et comme Bandaou, l'ancien président de la transition, le disait, que l'or doit briller pour le Malien, est-ce que c'est aujourd'hui le cas?
Ok, merci Diarra, merci à vos auditeurs et merci à Wahab pour ce passage. Je crois qu'il est très difficile de dire aujourd'hui que l'or doit briller pour tous les Maliens. C'est une question souvent qu'on entend, mais qui nécessite beaucoup de réformes, beaucoup d'enjeux, mais aussi beaucoup de responsabilités. Si on prend élément par élément, nous parlerons de l'industrie extractive à grande échelle qui est les grandes mines, et nous verrons l'industrie au niveau local qui est l'orpaillage. Je crois que ces deux éléments doivent nous permettre d'aller vers ce substrat qui est que l'or brille pour tous les Maliens. Mais aujourd'hui, nous sommes loin du cas et je crois que les comptes n'y sont pas pour le moment.
Donc c'est un vain mot.
C'est un vain mot à ma connaissance. C'est un vain mot à ma connaissance. Et comme je dis, il faut des réformes, il faut plus d'organisation, mais aussi plus de responsabilité, surtout la bonne gouvernance dans ce secteur. Il faut que les deux aillent ensemble et leur paillage traditionnel et aussi les industries extractives. Il faut que la bonne gouvernance soit et que les engagements soient très clairs au niveau des différents partenaires.
Oui, mais quelle est quelle appréciation la société civile fait aujourd'hui de l'orpaillage traditionnel?
Bon, je crois que les gens vont dire que l'orpaillage, l'artisanat n'est pas structuré. Elle est structurée parce qu'elle est transférée aux collectivités. Elle est structurée parce que au niveau même de ces différents sites, vous avez différents types d'organisations qui existent, les tomboulements, voilà. Tout ça, ça existe. Mais il faut voir qu'il y a un manque de renforcement des capacités. Aujourd'hui, les collectivités n'ont pas toute la formation nécessaire pour prendre en charge ça. Il y a aussi la question d'organisation de cette vente, c'est-à-dire à travers ces couleurs d'orpaillage, à travers la maîtrise de ce qui est vendu sur le terrain. Il faut créer des zones qu'on appelle communément des lieux où on va faire la vente uniquement. Et ça, ça demande des comptoirs, ça demande vraiment une organisation sociale, ça demande une organisation administrative, mais c'est aussi un engagement de l'État pour que les comptoirs existent là où il y a ces orpaillages. Parce que les gens disent bon an, mal an, 40 tonnes, mais c'est faux, nous sommes loin de ces 40 tonnes. Et si vous voyez, en un certain moment donné, nous avons perdu notre rang, le Soudan l'a ravi, c'est la maîtrise de l'orpaillage traditionnel, l'artisanat minier, c'est eux qui sont arrivés à travers de telle sorte qu'ils ont boosté ce système chez eux qui est l'orpaillage traditionnel, qui fait que cette contrebande et autres finissant, on voit effectivement tout ce que ça peut apporter.
Je crois qu'il y a, au-delà de ça, il y a un problème sécuritaire qui se pose. C'est ceux qui font cette activité ne sont pas du tout sécurisés par rapport au site et par rapport aussi à l'écoulement de ces armes que ouais. Qu'est l'or.
Oui, non, ça est bon. Pour avoir dans le même sens, il faudra effectivement se dire la vérité. Pour la société civile, l'or, dans ces conditions-là, ne peut pas briller pour le Malien. Comme il l'a dit, il y a beaucoup de choses. Mais quand on parle au Mali, on ne parle que du budget d'État, la fiscalité. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, si l'or pouvait briller pour le Malien, il fallait forcément que au Mali, nous parvenons à approvisionner les sociétés les sociétés minières. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Bon, quand ils parlent de choses, leur bagage, c'est ça. On ne fait rien pour protéger effectivement les orpailleurs traditionnels. On ne fait rien pour les protéger. Les collectivités sont là, c'est des domaines de transfert, c'est des compétences transférées, mais malheureusement, les collectivités n'ont ni les moyens, ni les ressources humaines, ni les ressources financières pour faire face à leurs obligations. Donc dans ces conditions-là, bon, on ne peut pas parler de l'orbri pour le manière, non. Nous avons notre vision de la société civile, hein, c'est ça. Sinon, on va vous dire, voilà, il faut aller prendre ces 6% du PIB. Non, nous ne parlons pas de cela. C'est le malien lambda qui nous intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés minières doivent s'approvisionner en bétail et en viande à l'extérieur? Est-ce que c'est normal?
C'est pas normal.
Tous les produits-là, ce n'est pas normal. Donc, tant que cela ne se fera pas, l'or ne brillera pas pour le Malien.
Okay. Je vais ajouter à ça et l'élément qu'on appelle contenu local. C'est ça.
Ah, le contenu local,
c'est ça. Il faut que nous arrivions à maîtriser.
C'est l'exploitation interne.
C'est l'approvisionnement interne.
Ah, l'approvisionnement interne.
Les services. Oh, ouais. Tant que nous n'aurons pas des sociétés qui vont faire des prestations de services. Tant que nous n'aurons pas des sociétés qui vont pouvoir faire des livraisons à ces sociétés minières, nous ne pourrons pas du tout dire que l'or brille. Quand tu vois le rapport de force entre les services et le travail au niveau des mines, mais c'est très énorme. Nous sommes en train de travailler.
Les légumes sont importés.
Voilà, c'est ça le problème.
C'est ça le problème.
Et à un moment... Et nous nous sommes battus par rapport à la viande. Je crois qu'ils ont fait des efforts pour mettre des boucheries, mais ça n'existe pas, ce type de boucherie. Et il faut vraiment que notre État travaille pour rendre disponibles les besoins de ces sociétés, pour que le Malien puisse commercer directement avec les approvisionnés. Mais là aussi, il nous faut des bons entrepreneurs. Nous n'avons pas d'entrepreneurs de cette trempe. Au niveau du transport, au niveau de beaucoup de choses, les gens ne sont pas capables de faire des livraisons pendant une durée bien déterminée, à des temps précis. Et c'est tout ça. L'entrepreneuriat national n'existe pas beaucoup. C'est des commerçants, et même des commerçants qui ne peuvent pas régulièrement fournir. Donc c'est normal que les sociétés
c'est
ne puissent
pas... rupture de stock.
C'est normal que ces sociétés ne puissent pas compter sur le Malien pour pouvoir les approvisionner.
C'est vraiment dommage.
C'est dommage.
Nous allons aborder notre sujet, à savoir la reprise de la mine d'or de Yatila. Alors, est-ce que dans quel contexte cette mine d'or a été ouverte? Si vous pouvez nous faire un petit retour respectif. Et puis, quels étaient les actionnaires en présence à cette époque-là et sa contribution au budget national?
Bon, merci bien, M. Gérard. Parler du contexte de la création de la mine d'or de Yatila nous amène à faire un petit rappel. Comme vous le savez très bien, que quand on va chercher un spécialiste ailleurs pour venir faire ton plan, c'est sûr que ça ne marchera jamais.
Bien entendu.
Voilà, donc vous savez très bien que les années 80, c'était les années du FMI, Fonds Monétaire International.
Ouais, le PAS.
On a dit tout le monde. Programme d'ajustement structurel, programme d'ajustement à visage humain, etc., etc. On est venu juste une seule solution, je ne dirais pas privatiser, mais parler aux sociétés entreprises d'État, méthode à se reculer. Cela a continué, effectivement, après les événements du 26 mars, ce processus de réforme a continué. Et finalement, on a demandé à l'État de s'occuper uniquement de son rôle stratégique, c'est-à-dire le rôle de régulateur, et de quitter réellement l'étape opérationnelle. C'est ainsi, effectivement, qu'il y a eu beaucoup de sociétés minières qui sont nées. Il y a eu, effectivement, les grandes réformes. Et finalement, on a eu plusieurs corps qui coexistent. Et la Yatela est née dans ces conditions-là. Okay. C'est les grandes réformes. Et les recherches ont commencé dans les années 96-97. Mm-hmm. Et les premiers lingots sont tombés en 2001. Bon, l'État du Mali avait 20%, et Angol 20 et puis Anglo-Gol 20. 40-40 quoi. Mm-hmm. Donc c'était les 100. Bon, la mine d'or effectivement devait se fermer en 2013. Bon, de sa création jusqu'en 2013, sa contribution a été de l'ordre de plus de 300 milliards.
200 milliards.
Plus de 300 milliards.
De l'ouverture à la fermeture.
À la fermeture, 383 et quelques milliards.
Voilà. Pour le Mali.
Pour le Mali.
Ok.
Mais vous savez, M. Diarra, c'est des chiffres quand on les prend sur le budget d'État. Pour nous, société civile, là. Non, ça ne nous épate pas. Mais quel est l'impact sur le citoyen lambda, c'est ce qui nous importe.
Le panier de la ménagère.
Voilà. Donc maintenant, donc 383 milliards, c'est beaucoup. Mais en réalité, quoi? Et effectivement, en 2013 déjà, le processus de fermeture a commencé. Donc voilà les conditions dans lesquelles, effectivement, la société a été créée. Et le processus de fermeture a commencé en 2013. Bon, la société civile s'est toujours battue d'abord pour l'augmentation du capital, parce que pour nous autres, 20% était peu. Et l'objectif final même, c'était la nationalisation de ces sociétés entreprises d'État. Donc logiquement, quand le Mali, le gouvernement malien décide de reprendre cette société, logiquement, nous devrons applaudir. Mais au lieu d'applaudir, nous nous sommes interrogés.
Alors, avant d'arriver à cela, quel a été le bénéfice tiré par la population locale par rapport à tout ce que...
Et je pense que le secrétaire général l'a bien dit. Bon, mais il peut encore reprendre pour que réellement les auditeurs puissent comprendre réellement. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu des impacts. Parce que tout ce qu'on va dire, ça, son apport dans le budget d'État. Ah, nous, ce n'est pas nous. Le budget d'État, là, c'est pour tout le monde.
Donc, aucun profit
Non, bon. Il peut en parler, mais
je pense que quand tu vas à Yatela,
bon,
à Sadoula, quand tu discutes avec les gens, ils vous diront qu'ils n'ont tiré aucun bénéfice durant tout ce temps. Les conditions ne sont pas bonnes, pas d'eau, pas d'électricité, pas vraiment de choses mises en place pour que la communauté puisse se développer. Tout est lié à Sadiola qui lui aussi est dépourvu de tout. Je crois que vous avez visité de temps en temps la ville de Sadiola. Mais Yatela quand même, elle a été un appendice à Sadiola, mais n'ayant bénéficié de rien. Alors que, en principe, selon les systèmes mis en place, c'est une communauté qui devait bénéficier de quelque chose.
Mais alors, où sont parties toutes ces ressources?
Non, il vous l'a dit, on va dire 300 et quelques milliards, mais quel est le retour au niveau de ça? Ce qu'il faut dire aussi, à l'époque, je crois qu'il y avait des dividendes par rapport à la patente qui était versée aux collectivités, et ça aussi, on sait que ça, c'est difficile aussi à maîtriser par les communautés. Sinon, Sadiola, bon an, mal an, gagnait 500 millions pendant plus d'une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que ces collectivités sont en train de faire avec ces ressources? Ça aussi, c'est un point d'interrogation.
Vous parlez de la collectivité ou bien vous parlez de...
La commune de Sadiola.
Ok, la, 500 millions annuels.
Annuellement, okay. La patente, annuellement, elle avait ça. Parce qu'au niveau de la patente, l'État a transféré tous les 100%, la commune à 60, le cercle 25, la région 15. Les 60 qui étaient donnés, ça fait une manne d'argent. Mais on voit aussi que la commune, ou bien les communautés, les villageois, elles n'ont pas aussi profité de ça. Donc c'est vraiment un...
Oui, mais est-ce que vous avez pu faire un audit à ce niveau pour savoir, ou bien une étude pour savoir où sont partis ces 500 millions? Bon. Parce qu'il y a aussi la part de responsabilité des édiles.
Non, bon, M. Diarra, il faudra faire extrêmement attention par rapport à ça.
Ah, ok, d'accord.
Parce que c'est quoi? C'est tout un système. C'est à tort, on s'en prend aux élus.
Ok.
C'est à tort.
Ok, d'accord.
Et d'abord, on dit le budget, prioritairement le salaire. L'investissement, un peu. Quand le législateur prenait cela, n'a jamais pris en compte est-ce qu'il y avait, il pouvait y avoir au Mali des communes excédentaires excessivement riches. Donc on a tenu compte, non, et ce sont des communes qui ne peuvent pas générer de ressources, donc il faut tout faire pour accorder la priorité au fonctionnement. C'est comme ça qu'on a parlé. Et c'est dans ces conditions, effectivement, qu'il y a eu le boom. Il y a eu le boom, il n'y a pas eu, bon, on n'a pas eu à changer de texte. Et les textes sont restés comme tels. Et également, il y a ce qu'on appelle le contrôle financier. Les mairies, là, n'ont pas de... comment dirais-je, là, n'ont pas de caisse à leur portée. C'est à travers le budget d'État. Et le trésor, à travers le trésor.
Donc s'ils doivent faire des infrastructures, on leur donne...
Tout ce qu'ils doivent faire, c'est signer. Il y a le contrôleur financier, là, le trésor débloque, les impôts...
Les perceptions.
C'est ça, les perceptions, quoi. Donc maintenant, quand ces ressources sont mal gérées, est-ce que réellement on doit s'apprendre au maire seul? Je ne pense que non.
Non, je crois que la législation... financière, même communautaire au niveau de l'UMOA, comme il dit à l'époque, hein, on disait fonctionnement,
voilà.
Et mettez un peu dans les investissements. Voilà. Une commune qui arrivait à mettre 85% dans le fonctionnement et 15% dans les investissements, il n'y avait pas de problème.
15% dans le fonctionnement.
85% dans le fonctionnement, okay. 15% dans les investissements. Et ça, maintenant, on est en train de s'attaquer à cette réglementation de l'UMOA pour inverser la tendance. Mais je crois qu'aujourd'hui, les communes ont compris qu'il faut des investissements.
Voilà.
Et beaucoup sont dans les 45-55%. C'est plus ou moins équilibré aujourd'hui. Mais le temps où la mine de Yatela existait, c'était vraiment tout le fonctionnement. C'était tout le fonctionnement. Donc, même aujourd'hui, si vous voyez des communes comme Sitakili, excessivement riche, vous allez voir des V8 au niveau de la commune. Et ça, les gens disent, ah, ça c'est quoi? Mais ils disent que la légalité, c'est qu'ils puissent fonctionner. Le véhicule, c'est un fonctionnement. Mais nous disons, est-ce que des véhicules moins que les V8 et autres, donc, pour eux, fonctionnement, c'est fonctionnement. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons discuté avec beaucoup de collectivités, surtout lors d'une réunion qu'on a eu avec au niveau de Sikasso, avec les communes minières et la collectivité de Sikasso. Je crois que les gens sont dans les tendances. Il y a maintenant beaucoup qui mettent jusqu'à 40, 42, 43%.
Il y a un équilibre
maintenant dans les communes au niveau de Sikasso. Okay. Ils ont compris avec le développement qu'il faut aller vers cet équilibre.
Mais il faudra également souligner que quand on parle d'investissement, nous, au niveau de la société civile, nous voulons surtout les investissements dans le secteur social de base. C'est ça.
Les SSB,
c'est ça. C'est ça notre préoccupation.
Okay.
Alors qu'ils prennent l'investissement, bon, quand ils peuvent construire des bureaux, les meublés, etc.
Des véhicules.
Des véhicules, on a investi dans ça. Mais en réalité, cela ne nous intéresse pas. C'est surtout le secteur, les SSB.
Surtout les infrastructures.
Voilà.
Et l'accès doit être vraiment bien par, dans ce sens
là, voilà.
À l'époque quand tu allais à Sadiola, c'était la Croix et la Bannière. Se sont améliorés maintenant par la route.
Par la route, ouais.
Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est où se trouve l'inquiétude aujourd'hui de la société civile, surtout principalement la coalition publiée, ce que vous payez, et quand l'État décide de reprendre en main cette société. Où se trouve aujourd'hui votre inquiétude?
Notre inquiétude, c'est quoi? Et la reprise a lieu en 2019, soit 5 ans après la fermeture. Donc, une première question. Pourquoi prendre une société fermée? Les actionnaires principaux avaient dit non, nous fermons parce que pour des raisons techniques. Le gouvernement malien dit je reprends pour sauvegarder l'emploi. Alors que la société est fermée depuis 2019 et depuis 5 ans. Quel emploi vous voulez sauvegarder?
Pour sauver des emplois.
C'est ça. C'est ce qu'ils ont dit dans les choses. Donc c'est ça. C'est ce qui fait que la coalition est obligée de s'interroger. Un, la société est fermée. Deux, vous voulez sauvegarder les emplois. Alors que la société est tenue de faire la reconstruction, les travaux de mise à niveau. Il y a un fonds prévu pour ça. Qui va prendre en charge si effectivement l'État prenait ce succès? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens pour le faire? Avant de prendre une décision, c'est sûr que l'État devrait prendre, c'est-à-dire qu'il va se baser sur des documents qu'il a direct attention que vous pouvez prendre.
Mais il n'y a pas eu de titre au préalable?
Ce sont nos questionnements, c'est okay. Ça. Parce que pour nous autres, une telle décision ne devrait pas être prise sans pour autant faire allusion au CNT, hein, au Conseil économique et social, au Haut Conseil des collectivités et à ses services techniques. Donc c'est sur la base de toutes ces des études et autres là que le gouvernement pouvait dire attention, maintenant sur la base des études réalisées par mes techniciens, donc je pense que je peux prendre cela. Et maintenant, il prend un projet, il s'en va au CNT, qui joue aujourd'hui l'office d'assemblée. Et logiquement, il doit passer normalement également auprès du Haut Conseil des collectivités. C'est pour prendre leur avis. Le Conseil économique et social, c'est pour prendre leur avis. Et les sciences d'écoute devraient se faire. Maintenant, il n'y a pas eu tout cela. Donc nous sommes franchement obligés de nous interroger. Et nous avons commencé ce combat-là. Mais malheureusement, comme vous le savez, avec les périodes d'instabilité,
oui, bien sûr.
Donc on n'a pas eu d'abord à faire face au gouvernement. Mais la semaine passée déjà, la société civile s'est retrouvée pour préparer un document. Et à l'analyse, nous nous sommes dit que réellement, que est-ce que c'est la peine d'aller voir le ministre? Parce que c'est un problème d'importance nationale et extrêmement important. Donc dans la salle, nous avons dit, effectivement, il faut aller directement voir le Premier ministre par rapport à ça. Pour que l'État malien, pour que la population malienne soit édifiée. Nous sommes d'accord pour la nationalisation, mais nous ne sommes pas également d'accord pour des contrats où l'État, c'est-à-dire quoi, les communautés n'ont pas d'accès à l'information.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas confiance à l'État malien?
Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance. Non. L'État malien aurait pu nous donner des documents. C'est ça. C'est ça la transparence également. Autant nous avons demandé à ce que l'État passe et cherche des avis du CNT, du Haut Conseil des collectivités, des choses, l'État pouvait et doit normalement savoir qu'il y a, au niveau de la société civile, il y a des acteurs également qui évoluent dans le secteur minier. Il y a Diogo Numaya qui évolue. Il y a la coalition malienne publiée, c'est un pays qui évolue. Donc l'État malien aurait pu même nous donner ces documents-là qui leur permettraient effectivement
de prendre une décision allant dans le sens des populations.
Donc, ça veut dire que vous soupçonnez l'existence d'une nébuleuse autour...
Mais on le dit franchement, on le dit franchement. Pourquoi ne pas communiquer autour de ça?
Il faut communiquer. Parce que là, voilà. Le contrat même de reprise d'une société... c'est une société qui était déjà morte, la mine était fermée 5 ans. En prenant ça, vous avez un passif. Quel est le coût de ce passif? Et la mettre en valeur, c'est des actifs que vous devez avoir. Est-ce que l'État a les ressources? On parle de, il a parlé de réhabilitation de ce site, mais c'est énormément d'argent. Est-ce que l'État est capable de réhabiliter? Est-ce que l'État est capable de dédommager tous ceux qui sont sur ce territoire? Donc tout ça devait faire un système de consultation et un document qui permet à nous, acteurs de la société civile, de nous prononcer sur l'exactitude de la prise en charge de cette mine aujourd'hui. Sinon, nous nous disons que l'État a fait un contrat, peut-être pour décharger la société qui existait, mais si ce contrat n'est pas mis sur table et que les gens discutent, ça va poser un problème. Et notre problème aussi, c'est cette question de transparence par rapport au contrat.
On se pose la question, par quel mécanisme de 20% l'État s'est retrouvé à 100%?
À 100%? Et est-ce qu'elle a aujourd'hui les capacités de prendre ces 100%? Surtout encore que la mine de Yatela avait assez d'éléments négatifs par rapport à la réhabilitation, par rapport à tout ce qui doit être payé au niveau de sa collectivité. Donc c'est un grand problème qui existe. Il faut faire sortir ce contrat, déposer pour que les gens comprennent.
Mais il n'y a pas eu d'expertise aussi.
Bon, quand un État cavale seul là, c'est ça le problème. Voilà. Il a dit qu'il fallait consulter, il fallait faire des séances d'écoute. Le ministère devait passer soit à l'Assemblée, à les structures, c'est ça qu'on voit, et poser le problème. Et puis même au niveau régional, quand tu vas aujourd'hui dans la région de Kaï, le gouverneur qui était le représentant de l'État par rapport à cette société dilatée là, n'a aucune information. Sa reprise, il ne sait pas comment ça a été fait. Est-ce que ce n'est pas des techniciens qui ont vu le vent venir et ont signé vite cette reprise, sans pour autant que le plus haut sommet ne soit averti? Donc tout ça, c'est des interrogations que nous nous posons.
Déjà, il y a une société qui a été créée qui devait s'occuper de la destinée. Et quelle est la... Est-ce que la société, elle a été la création, la mise en œuvre effective?
Oui, nous n'avons pas d'informations. Mais quand même, quand formellement ça a été fait, parce que c'est une annonce qui a été faite au cours du communiqué du Conseil des ministres, le 23 octobre 2019. Donc ça, pour nous, c'est déjà fait. Donc c'est en cela, effectivement, le gouvernement est obligé de communiquer. Et nous allons, même s'ils ne veulent pas communiquer, nous allons les exiger à communiquer par rapport à ça. La réhabilitation à votre là, c'est plus de 20 millions de dollars. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, sans pour autant être leur avocat, parce que, je vous dis, les multinationales également tiennent également à leur renommée. Est-ce qu'il n'y a pas blocage à leur niveau également? Parce que si l'État doit prendre, et l'État ne parvient pas à faire la réhabilitation nécessaire, donc également, ça va atteindre également leur renommée.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, on ne savait pas. Est-ce qu'il n'y a pas tous ces problèmes-là? C'est pourquoi nous allons exiger au gouvernement de communiquer par rapport à ça.
Donc, vous demandez au gouvernement de communiquer par rapport à...
Et voilà, de vérifier, c'est-à-dire quoi? De préciser le bien fondé de sa décision.
Ouais.
Pourquoi prendre une mine déjà fermée? Déjà ce qu'ils ont dit, cela n'est pas juste. Quand il s'agit de sauvegarder les emplois, on aurait dû faire avant la fermeture.
Oui, bien sûr.
La mine est fermée pendant 5 ans. Et quel emploi? En ce moment, je pense bien qu'en économiste, là, je vais parler d'emploi fictif.
Oui, mais est-ce que l'État aussi ne va pas s'engager comme ça sans pour autant avoir l'assurance qu'il peut y avoir un partenaire qui puisse le soutenir, et même si son nom n'est pas dévoilé?
Mais ça c'est des risques.
Voilà. Je crois
que c'est des risques. Quand un État se base sur des fictifs pour acheter une mine, parce que c'est de l'argent, acheter une mine et pouvoir attendre après pouvoir la revendre. Peut-être c'est ça, peut-être le schéma classique. l'État s'approprie de cette mine et essaie de la revendre après.
Mais les 80% là, qui des actions, est-ce que l'État a fait déjà un versement au niveau de la société qui avait cette part-là?
Monsieur Dira, voilà, c'est des questions. Personne ne sait aujourd'hui, sauf le gouvernement qui a fait ça. Personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ça. Nous ne savons pas. Faut-il engager également, c'est-à-dire mettre la corde aux générations futures? Voilà nos questions.
Alors, quelle est l'alternative qui se pose aujourd'hui pour que au moins la société puisse être bien gérée, que les collectivités locales puissent avoir leurs bénéfices, que les choses fonctionnent normalement jusqu'à la durée, jusqu'à l'extinction de l'entreprise?
Non, monsieur Dara, je ne sais pas si on se fait comprendre. Déjà, on peut considérer cette entreprise-là comme une propriété du Mali. Alors qu'il y a des conditionnalités. La réhabilitation n'a pas été faite. Ça veut dire qu'ils vont continuer l'exploitation. Le secrétaire général disait tout de suite, est-ce qu'ils vont donner, vendre ça à un autre propriétaire, à un actionnaire? Est-ce que cet actionnaire-là sera capable de faire face aux multiples défis? Voici également notre inquiétude. Donc dans tous ces cas-là, il nous faut, le gouvernement doit maintenant cesser, doit communiquer et nous remettre également des documents prouvant que effectivement le Mali peut tirer bénéfice en créant cette société-là. Mais sans cela, là, tant que c'est juste, on doit mettre fin à ça. On laisse la réhabilitation à Yatela SA et les réhabilite, et puis c'est tout.
Il y a un élément quand même qui est sûr, et le potentiel minier existe. Tu vois, c'est tout ça, les surenchères, les débats. Yatela a été arrêté, il a dit, pour raison technique, mais
il y a un potentiel.
Le potentiel existe. Et Sadiola aussi avait des difficultés, mais est en train de reprendre. Il faut un autre type d'exploitation pour pouvoir exploiter ce potentiel. Tenant compte de ça, peut-être que l'État a préservé ce potentiel en achetant cette mine, pour moi, une mine morte, parce qu'elle n'était pas en activité. Il y a un passif qu'il faut gérer. Il y a plein de choses qu'il faut gérer, mais on ne peut pas seulement se contenter de « il y a un potentiel » et puis l'acheter. Ou bien penser qu'on va le prendre et on va le revendre à un prochain acquéreur. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas claires. Dans cette gouvernance, il faut que l'État arrive à dire « Sadio Yatela 5 ans fermé, nous la prenons ». Voilà pour telle raison.
Pour tel nombre d'années
pour
aussi.
Pour tel nombre d'années. Et nous pensons que si c'est pour préserver les emplois, la mine va refonctionner. Personne ne sait si cette mine va refonctionner, même dans 10 ans. On ne sait pas. Donc il y a plein d'interrogations. Il faut que, il a dit, l'État communique qu'à travers toutes ces structures pour dire ok, Yatela, à cette étape, on a pris, nous pensons faire ça. Et voilà les enjeux qui existent. C'est ça le combat que nous sommes en train de mener.
Ouais, aujourd'hui, la motivation de sauvegarde des emplois est-elle suffisante pour que l'État devienne actionnaire majoritaire?
Ce que je disais, en tout cas pour moi, c'est des emplois fictifs. Mais une société fermée depuis 5 ans, est-ce qu'il y avait des emplois là-bas? Non!
Ils ont tous licenciés.
Est-ce que vous comprenez? Pour moi, c'est des emplois fictifs. Qu'est-ce qu'on veut encore? Voilà.
Et il y a même des grévistes, des gens qui gravitent toujours autour de la mine.
Donc cette raison n'est pas du tout valable.
Donc la coalition est dans son rôle.
La coalition est dans son rôle.
Ouais.
Il y a peut-être une autre raison.
Voilà. Sinon, je comprends, effectivement, quand les multinationales disent pour raison technique, là, je les comprends.
Là, ça peut.
Non, pour un capitaliste, là, je donne, il faut que le retour à l'investissement soit très sûr. Si ce n'est pas sûr, systématiquement, je laisse. Donc, effectivement, dans la raison, là, c'est valable.
Mais la raison technique, ça peut s'expliquer par quoi ?
Non, c'est la raison technique pour eux, c'est ça. Tu sais,
ce sont les machines qui ne
fonctionnent pas. Non, des multinationales, ils ont beaucoup de mines, généralement à travers le monde. Bon, dès qu'ils voient ici que ça ne va pas un peu, ils ferment. Et c'est le gain. Donc, c'est pourquoi ils disent raison technique. C'est-à-dire, quand ils savent qu'ils dépensent là, s'ils ne rapportent pas plus, c'est pas la peine pour eux de continuer. Même si les réserves existent encore.
Ça, c'est dû un peu à la qualité de l'or.
C'est le capitalisme même quoi.
C'est
quand je donne 10 francs là, forcément, si je n'ai pas 30 francs autres là, ce n'est pas la peine. Si je dépense 10 francs, je n'ai que 15 francs, 5 francs de bénéfice là. Alors de l'autre côté, je donne 10 francs, j'ai 30 francs. Je vais là-bas et puis je laisse ici.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est ça. Ils sont à leur droit également.
Raison technique. Vous avez tout ce qui est système d'exploitation.
Voilà.
Tu vois, Sadiola, Yatela a été exploité en un certain moment donné avec un système. Maintenant, soit le minerai est en profondeur, ou bien le minerai demande un certain nombre de travail aujourd'hui qu'eux, ils ne peuvent pas faire pour l'exploiter. Il faut un autre système d'exploitation qui peut les coûter plus cher. Donc, entre-temps, ils arrêtent et ils voient comment faire. C'est le même système qui est fait à Sadiola. Mais Sadiola est en train de reprendre avec ce qu'ils appellent le sulfureux. Ils exploitent à un certain moment donné. Ils ont dit, maintenant, on ne peut pas faire ça. Ils ont arrêté un bon moment, mais sont dans un nouveau système. C'est la même chose que Kalana. Kalana a exploité en sous-sol pendant un bon moment.
Oui.
Mais ils ont vu qu'aujourd'hui, il y a le minerai qui peut exploiter en surface. C'est pourquoi des négociations sont avec les collectivités pour déplacer une certaine partie de la ville et exploiter en surface. Donc, c'est le système qui détermine leur gain. S'ils voient qu'à cette étape, ils n'ont pas d'intérêt, ils laissent. Mais ils peuvent revenir. Pendant ce temps, si notre État prend, il faut que l'État aussi mesure tous les avantages, les pour et les contre de pourquoi j'ai pris et donner ça à ses citoyens.
Et c'est ce qui n'a pas été fait.
C'est ça qui n'est pas fait.
Justement.
C'est ça qui n'est pas là aujourd'hui. Personne ne sait pourquoi l'État a pris ça.
Bon, au-delà de la société civile, est-ce que la population locale a réagi? Est-ce qu'il y a une réaction de leur part depuis qu'ils ont appris que cette nouvelle donne-là?
Non, quand tu es à Kaï, les gens sont satisfaits que l'État a pris. Mais les gens ne mesurent pas les enjeux.
Ouais, est-ce que vous, en tant que société civile, vous avez pu faire des séances de rencontres ou de sensibilisation avec les leaders communaux pour qu'ils puissent se rendre compte du danger ou bien des conséquences que ça peut avoir de cette session-là?
Je crois que, Gérald, notre travail, c'est ça, même
c'est
ce débat.
Ah.
Il nous faut le contrat.
Voilà.
Ah. Il nous faut connaître les raisons pour lesquelles l'État s'est engagé à reprendre cette mine. Sinon, aujourd'hui, tu ne peux pas aller voir les communautés pour dire que voilà. Mais si on a les contrats de prise en charge de cette mine, on peut l'analyser et discuter avec les communautés. Et discuter même avec les gens de la région.
Vous n'avez pas encore en main?
On n'a pas. C'est ça qui n'existe.
Mais où est-ce qu'on peut l'avoir?
C'est juste un communiqué.
Avec ton gouvernement, là, personne ne sait maintenant. C'est pourquoi nous avons décidé écrit systématiquement au premier ministre après sa prise de fonction.
Tu vois. Juste un communiqué disant que l'État a repris la mine et on a dit qu'il faut fouiller dans le journal.
Voilà.
Dans le journal officiel. Mais dans le journal officiel, peut-être que ça aussi on a cherché. Il y a pas
avec le gouvernement de Bandao, vous n'avez eu aucune rencontre avec le ministre des Mines.
C'est pas la peine, c'est pas la peine.
On n'a pas pu.
Tu sais, vous savez, lors de la remise du rapport,
il a parlé de Lord Brie pour.
Il dit Lord Brie pour le Mali.
Voilà.
Nous, voilà, la société civile s'est réunie pour lui permettre de mettre ça en action. On lui a envoyé un document. La réponse a été je ne peux pas vous recevoir parce que je suis très occupé.
C'est un document technique
non,
qu'on
non,
a
je
conçu.
Pas saisi,
c'est... Non, vous avez saisi, mais...
Non, je voudrais... Non, c'est-à-dire que je voudrais comprendre ce que vous venez de dire tout de suite, que quand il a dit que l'or doit briller pour...
Vous savez,
sur cette assertion, voilà. On a sauté. Il y a beaucoup de gens de la société civile, des structures, qui sont venus au niveau de la coalition pour dire « Ah, le moment est venu ». On a un président ouvert. L'or doit briller pour tout le monde. On s'est réunis beaucoup de fois. On a fait un dossier technique pour voir toute la littérature par rapport à la problématique minière, tout ce qu'on doit faire et l'engagement. On a déposé ce document technique chez lui et on a demandé un rendez-vous pour discuter avec lui. Parce que ce qu'il a dit plaisait tellement aux gens, dans l'euphorie, on a pensé que c'était une bonne chose. Mais on a été surpris de cette réponse officiellement. Il n'a pas voulu recevoir cette équipe de la société civile officiellement, avec le motif que pour que l'or brille pour tout le monde.
Et mieux, Djara. Ok. Un président de la République, vous n'êtes pas obligé de nous recevoir.
Bien sûr.
Vous avez votre directeur technique, vous avez votre cabinet. Vous avez votre cabinet. Mais personne. Je suis occupé.
Il est occupé.
Mais non, quand même. Un peu de respect pour le Mali.
Vous avez vu, regardez du côté de la primature.
Non, imaginez un peu.
Ouais, mais quand la ça première... vient de lui.
Bon, non, quand la première institution déjà dit qu'elle est occupée, on ne veut pas descendre.
Non, là, c'est vrai.
Il fallait donner.
Généralement, dans les autres pays, là, quand le président n'a pas d'interlocuteur pour mettre en action ses assertions. Mais aujourd'hui, au Mali, tel n'était pas le cas. C'est la société civile qui s'est mobilisée autour du président pour l'aider à faire en sorte que l'or brille pour le Mali, mais il ne l'a pas pu. Il n'a pas pu faire ça. Nous avons très souvent compris que c'était une déclaration populiste.
Populiste, c'est tout.
Ça n'a aucun contenu.
Non, c'était pour se plaindre.
Parce qu'on lui a donné un document technique.
Un document technique,
technique, franchement. Montrant et beaucoup, puis, beaucoup d'éléments.
Voilà, avec plusieurs scénarios.
Ouais.
Peut-être le président va essayer de nous recevoir à 6. On a pris ce scénario. À 3, on a pris ce scénario. À 2, on a pris ce scénario. Et chaque scénario, on avait.
Voilà. Donc vous êtes préparé avec tous ces scénarios.
Voilà,
tout.
La réponse est maintenant dire à tout le monde qu'attention, il n'y a pas de choses. Ils peuvent nous appeler la nuit,
à n'importe quel moment.
À 8 heures. Bon, si tel est le cas, nous, on a pris tout ça.
Tout était mis en place.
Voilà.
Tout était mis en place. Et même dire qu'il nous reçoit et ensuite il nous met en contact avec d'autres.
Voilà.
On avait mis tous les scénarios, mais la réponse était vraiment...
Mais ça veut dire que par rapport à cette situation, vous avez du chemin à faire.
Oui.
Ou bien vous aurez du chemin à faire.
Oui, mais en fait, le problème c'est quoi? Nous sommes convaincus que l'or doit briller pour le Mali. Et nous n'aurons plus laisser nos autorités à faire ce qu'elles veulent. Ce n'est plus possible. Parce que cette instabilité-là, c'est dû à la mauvaise gouvernance.
Bien sûr.
Hein?
Bien sûr.
Et la base de la bonne gouvernance, d'abord, c'est la communication. On ne leur demande pas beaucoup de choses. En tout cas, le docteur doit savoir que très prochainement, il accusera une lettre de la coalition malienne publiée, c'est groupée. Par rapport à Yatela.
Parlez de quel docteur?
Et docteur Choubara Maïga. Ah oui.
Non, je crois que cette fois-ci, vous ne manquerez pas d'interlocuteurs par rapport à la situation, surtout qu'en dehors d'ici, il y aura d'autres séances de rencontres avec la presse, et par lesquelles vous aurez l'occasion de vous exprimer et vous serez entendu. Nous le souhaitons.
C'est ça notre souhait.
Voilà,
c'est ça. C'est ça le souhait.
Parce qu'on ne peut pas s'engager dans quelque chose dans lequel on n'a aucune maîtrise. Si vous n'avez pas de documents, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Alors, quelles peuvent être les attentes de la communauté minière, pardon, de la collectivité locale par rapport à cette session, si jamais les choses se passaient comme ça?
Non, avant de donner la parole au secrétaire général, Djara, rassurez-vous, le Mali sera propriétaire de cette mine si effectivement les communautés maliennes ont tiré du bénéfice dans ça. Sinon, un contrat 4 minutes comme ça, là, hein, et après poser plus de problèmes.
Sur la pointe des pieds.
Sur la pointe des pieds, là. Et poser plus de problèmes aux communautés que maintenant, là. Non, cela ne se verra pas. Je donne la parole au secrétaire général pour continuer.
Non, je pense que c'est comme c'est dit, hein, il faut quand même que nous assurons les assises de ces communautés. Tu vois, une mine en fonctionnement doit prioritairement voir les aspects sociaux, économiques de développement local. De développement local, il faut que cela s'y ait pour que nous puissions être sûrs qu'on accompagnera ces différents responsables sur la suite de cette mine. Mais sans l'engagement de ce développement local, je crois que on ne sera pas dans le processus.
Mais au-delà de Yatela, on parle aussi de la relance de Morila. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Bon, il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant de nous séparer. Je ne sais pas si on peut revenir sur ces grands points en langue nationale pour permettre aussi à certains de nos auditeurs qui nous suivent et qui veulent avoir certaines informations par rapport à ce type de session de la société des mines de Yatela. Voilà, Abdul Wahab, tout va faire. Et voilà, et quand Dapunya Damadofain, c'est pour que société civile, j'ai que le temps où il est le coup d'Obi, au fin minier, Yatela, Adoujuro Nafolomi, ni Abebo, ko Abel Blabla, Jamanaka Boloka. Bon, Abla Bla Chokomina, Ani Ablakuna Blakan, Aute Fendo Allah. Aka hamiye mu ye bi tun ba fe ka do fo anya ka
jara an ga jikulu an ba fo coalition malien publier ce groupe an de kumbe kele la dongo don ko an ga duku ju na folo aka kan retaye bo binie keme o kemeta mali ka gouvernement ye mali tay mo ganyo ko en antu ngoka do froka obina froko adodiran anre makande tabe antu nganga foko tare mo ofole a anim a kolodo no nafna mbirna no nafna anyanya re ninga a muna sisa karam malitae muna ayo ninga like o ninga le bena muna bo yetela yare adam nana samba clinique me kono fon nimbi woro me barafro kera samba fla me katola akanga datugu samba fla ni tan saba mo konna na akuni ay minado faso jigine na fla sokono o bena milliard kemesbani bisegin doni maniwo beta samba flan tan saba muda kuntaro na ba fuluma anglo kol na yam gol lo ko a ka fin wi be wor mi sura la wor do gara dong lu be tawro re ko mi re ba don amma fo mu ma ko kaptale si lu te do ro na fe tono ko de tono te ro ro te uti na ko ta la fo fo ko ta la donc lu ay ro datu kabri samba flan tan saba a ambe même muna samba flanentan ko non ton maliko mugami kumale wolo ani nunga bishigi kale osa e ibasa yasani word me moto kalama akela kamu fo ko bara alia san walsa baraka la mumbe uluka baraka to boto anya yere ninga femin datu nembe ute mugo te parala ko e wa faka dona to boto ko ou puis on a une galère pour faire là ou bien avoir fait kafuko et barakala doba bolo ou lui jine barakala we worom be fon la ko worta mo doba ko worta baaya ya ni mo ofna la yela ni e ni tara sisa nunu nga rodatun o rodatun dama o kanga workatani million et dollar million moins à datundama ayi ningale ke o datum o wor datum o wor be tarod me sisa aw ya sa o wor ni be tarod me moko ta do yala na ya sa ayo fe munka aw jetti minat menke wal saka foko na ya sa am fana ka here bi se ka sura ko parce que yé fe fam fo ti se ka ke tiné o e bara min te bi se ko bara la kana chogu me
ka gale
donc ayi ningale ko fana ti se ka ke tiné chogu si maintenant ya sa fana yala o bata di mugo ma ka sa ka fe maron ni me misal no di ma
ngawo yalla si
anga simile fer kara chogu me na ale bi mugo si tara mugo mi tara
ngawo bien sûr
afir la do ma fana afir do ma fana afir do ma fana afir do ma ante kulun soro aba am premier région mo asikle do ngora me kasila do ngora be fana ko tere me wuli
bon nga foro ko chama
an fane mo ori no ko fana ni e a 160 kata di mo rema e wor do soro la yela o ti bi se ka baraka la wa o ko fana ba amur
ngal gele
donc o pere ko son an ngun no famindo atebe mani to do fana bena o era gouvernement ko tambulo mani kele damna pour ou kado mi mena do sisa ou kado nga foko krembu nye bo du djuro na foko te klo nga ko yele
ti
fen do ape ban awere ko madola ngo awor ma nga ta kali ka tsara kala bo fen be ban il est fen do de ke mi me sin nyasi dima
na bana sara maut na
tsara amba ban ko yi
o che
donc ou kado anyi bana mi ndam na sisa a bara ko yemu ye en termes de contrôle là le wajibi le don ni jamana ka fele bi tle mo ye wajibi le don ni jamana ka fele ibe fe fe ke ibe jamana don na e kuna fondi jamana don na ne wa fe ka nke jamana ka herabe so akon la la ora to am bena ay ka fe bad la be ko yi me romina ministre da ka doa akola ante ti ministre du ngorona du gukoro nafro akal fa le ministre mina ante sa fe ndé
Anti-safé,
Aka Bouaman. Bon, qu'on a fondé la conseil du ministre de là. Qu'on a fondé la conseil du ministre de là. Donc, nous, qu'on a fondé la conseil de là, au Koroko président du premier ministre de Koumé. Donc, ministre, au dernier cas, fondé. Donc, en monsieur premier ministre de moi, comme Alain Natola, Alain Nana Mamé, fouille à te faire une caramane. A quoi déjà là, avec les 6 enfants, avec les. Donc en prenant une clé de Bessama, il voit Jibidi donc à Kankaït et qu'on a fourni la Tika Dama, en gassé car donc il y a la ligne Malina Falambala, ni Malina Falantala, au Kumon Malibi Sobala, Munganga Rodatou, Lukuka Rodatou, Pekka Lafia.
Ok.
Voilà.
Mais il y a un Kuma Famuna, Kuru Serachana, en tu vois Timin Dignoma, en Taroni Dakuria Kele, Segon Kelegele.
Aí me falou bem, aí diz lá para o nosso,
ah o,
cabanda o tui, amo o fort, doutor Sugalayana, aqui dizia, cafuco amena café minchama, o wajibi do akanjabi,
nasco,
bau dam banda o go, cara te se akanjabi,
cara se kojabi,
cara te se akanjabi, já nha alit me aí como é mufo verificateur kara fordo jakuma ka kuma ke walsa ka jamu ko yede ya kunta kuma walsa kum mali sanun ka ka yede mum mali be a kuma mi fotin ya kunta de a kuma to mo ka ja
lord do briller pour le
mali ya kunta de a kuma kuma le walsa mo ka akoka jamu ko ye
d'accord babu wa famuna amba fu ka wala nyondo aya wole kana aya nga wole jabi ni yana ka fo ni na ke ambaru de ski laban ye amina kana waati woro soro an be do kun ke femi ye gouvernement croix ye o ka se ka aw wele aw ka se ka siga kuma wala sa famiya li ka se ka soro aw ka layini ka sabati a be kɛ munnu ka munnu sigiyɔrɔ la olu fana ka layini ka sabati an be aw bɛ fo
an b'aw yɛrɛ fo
voilà malikune tekniki tun b'ale bolo an yɛrɛ ka malifoli lase aw ma baba jara babina a k'an bɛɛ jɛ waati wɛrɛ.